camina peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme.
Le cheval.
Waouh, l'unanimité.
Ouais.
Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors avec aujourd'hui autour de la table Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Jean-Claude Adelin.
Bonjour à tous.
Et puis, on ne s'en passerait plus, Karine.
Bonjour à tous.
Alors, prêt pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes ?
Oui.
J'ai l'impression que ce matin, le bol d'avoine a été conséquent. Hein. Ça hennit.
Le soleil, le printemps, le mois de mai, enfin le printemps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça donne l'envie.
Alors, on va prendre le mot au pied de la lettre. Et aujourd'hui, donc, ça va être le mot mort. Le mort. Alors, c'est en fait au début du XIIe siècle que ce mot apparaît dans la langue française. Donc, c'est relativement récent. Il est issu du latin morsus, donc, issu lui-même du verbe mordre en latin, mordere, qui signifie l'action de mordre ou encore une morsure. Bon, pour l'instant, on est à peu près, on comprend assez bien. Alors, à la fin du XIIe siècle, mort signifie d'une part la morsure d'un animal envenimé, donc, comme la morsure d'un serpent ou d'une araignée, mais également un morceau mordu en une seule fois, gloups, c'est-à-dire une expression toujours utilisée aujourd'hui dans certaines de nos langues régionales. On dit toujours, tiens, par exemple, en Savoie ou en Haute-Savoie, on dit, tiens, tu me donnes un morse de quelque chose, c'est-à-dire une bouchée de quelque chose, on dirait une bouchée de quelque chose. Alors, toujours à la même époque, donc on fait un petit retour en arrière, le mort désigne également une agrafe qui permet de fixer une cape ou un manteau sur la poitrine. Voilà. Et environ deux siècles plus tard, le mot prend son sens actuel de levier fixé sur une bride et qui passe dans la bouche du cheval. Bon, rablabla, tout le monde connaît le mort que l'on met dans la bouche du cheval. Et là, c'est un, Jean-Yves, c'est un mort à branche.
Oui, mais fait qu'il ne doit pas agir sur les dents, justement, sur l'endroit où il n'y a pas de dents, sur les barres.
Voilà. Alors, vers 1680, donc fin du XVIIe siècle, mort est également utilisé pour désigner les mâchoires d'un étau, hein, mâchoire équipée de mordage, du reste, en bois ou en plomb, qui servent à protéger la pièce en train d'être travaillée. Et toujours dans cette idée de morsure, les graveurs donnent le nom de mordant à l'acide dont ils enduisent leur plaque métallique d'imprimerie. Voilà. Et un acide du reste que les bijoutiers utilisent également toujours pour fixer l'or ou l'argent sur la monture d'un bijou. Donc on voit que mort, ça représente quand même pas mal de choses. Alors si notre cheval nous fait comprendre que notre main est dure, hein, Jean-Yves, tu n'aimes pas la main dure, je crois qu'autour de cette table, personne n'aime les mains dures.
Le bon Dieu dans la bouche.
Le bon Dieu dans la bouche. Donc une main dure qui manque d'à-propos et qui est inconfortable, il serait inutile pour résoudre le problème de tremper son mort dans une décoction de scabieuse des prés. Pourquoi scabieuse des prés ? Parce que c'est une jolie plante médicinale encore appelée le mort du diable.
J'ai une astuce pour décontracter, justement, quand les chevaux ne se décontractent pas sur le mort. C'est mettre un peu de sel. Et ça, les vachers à la montagne le connaissent bien aussi. Ils ont le sacoton avec le sac de sel pour attraper les vaches, qui l'amène par l'oreille pour faire têter les veaux. Et le sac de sel, ça décontracte.
Alors donc,
le grain de sel, ça décontracte.
Voilà. Alors, donc, un petit grain de sel, pas sur la queue, comme pour attraper les oiseaux.
Voilà, hein, ça c'était pour les
oiseaux. Mais dans la bouche, et ça empêche finalement, en rendant la main agréable, d'empêcher
le cheval. Ça fait mâcher le mort. Ça le fait bavarder, le cheval.
Voilà. Et ça l'empêche effectivement de prendre le mort aux dents.
Et voilà.
Exactement. Et de partir au triple
ce
galop.
Ce qu'il ne faut
en
pas,
coup
d'ailleurs.
De cul. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, on le sait, en France, plus de 80% des cavaliers sont des cavalières et le messager du cheval, Jean-Yves, tu seras d'accord, ne peut que s'en réjouir, car c'est vrai qu'il, tu le disais tout à l'heure, car il n'en a pas toujours été comme cela. Et effectivement, pendant des siècles en Occident, en Europe, l'équitation a été un monopole quasi exclusif des hommes.
Des hommes, oui.
Voilà.
La femme était interdite de cheval.
Voilà, et pourtant...
Mais il n'y a pas très longtemps encore, hein. Au Portugal, moi, les premières fois du Portugal où j'étais, ben, les femmes marchaient derrière les chevaux et derrière les cavaliers, elles ne montaient pas sur le cheval.
C'est galant?
Ça fait 40 ans, 50 ans à peu près.
Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que cela, parce que l'équitation féminine est une vieille pratique aussi ancienne que l'équitation masculine, mais pas en Europe. Et c'est vrai qu'on trouve une des premières représentations de femmes à cheval sur des bas-reliefs assyriens qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ.
Mais la femme à cheval, c'était exceptionnel. Chez les Arabes encore, il y a pas très longtemps, les femmes ne montaient pas à cheval.
Eh ben, c'est pas si...
Il y avait des spécialités, Jeanne d'Arc par exemple, aussi. Bon, mais la femme en général ne montait pas à cheval.
Ouais, c'est peut-être pas si évident que ça, parce que dès le 6e siècle, alors à la fois on voit des sculptures et des peintures grecques qui représentent les Amazones, bien
ah,
sûr,
ben ça, les Amazones, c'est
voilà,
spécial.
Qui montaient à califourchon. Et en revanche, les Grecs représentaient des Amazones qui montaient à califourchon, mais n'ont jamais représenté des simples femmes qui montaient à cheval. Ça, par contre, ils zappaient ce genre de truc. D'autre part aussi, on voit des petites estampes arabes qui montrent des femmes qui montaient à cheval à califourchon aussi, et toujours à califourchon.
Et pourtant, la femme a des facultés extraordinaires. Elle réussit mieux que l'homme à cheval, en principe.
Ah, je pense que Karine va être assez d'accord là.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Alors, à l'époque des Mérovingiens et des Carolingiens, on ne trouve pratiquement plus de représentations de femmes à cheval. Alors là, ça c'est terminé. Et si certains manuscrits de ces époques montrent des femmes chevauchant à califourchon, c'est dans le but de vilipender les vices féminins. Alors là, c'est très bien. On montre une femme qui monte à califourchon en disant, voilà, ça c'est le vice féminin.
Et pourquoi le vice féminin?
Ah, parce que je suppose qu'elle écarte les jambes.
Mais elle devait y trouver une jouissance, cheval, peut-être, à cheval. Et
voilà.
Donc,
je sais pas, faudrait demander à Karine. Est-ce que la femme, quand elle monte à cheval de façon comme un homme, est-ce qu'elle peut éprouver une jouissance?
Pas physique en tout cas, hein. Psychologique d'être avec son cheval, de faire qu'un, mais physiquement, ou alors moi j'ai pas trouvé les boutons peut-être.
Karine n'a pas trouvé les boutons. Il m'impressionne.
Michel est perturbé par le sujet.
Cherchez le mouton, vous trouverez le bouton. Alors c'est au 13e siècle justement, puisque ces pauvres femmes n'ont pas le droit de monter à califourchon, c'est vicieux. Donc on crée la sambu, ce qu'on appelle la sambu, qui est en fait l'ancêtre de ce qu'on appelle, ce qu'on nommera plus tard, la selle amazone.
La selle d'Amazon.
Voilà. Alors la construction en est simple, une couverture ou une peau de bête. Alors ça, franchement, on vous gâtait pas.
Une
couverture ou une peau de bête. Non, on parle pas des maris. Hein. On parle simplement d'une peau de bête qui est fixée sur un arçon constitué d'une seule batte et d'un pommeau élevé. Point. Donc ça, franchement, c'est service minimum. Alors deux courroies fixées sur la gauche de l'arçon soutiennent une planchette sur laquelle la cavalière repose ses pieds, donc on comprend bien que la cavalière...
Et la fourche qui est importante aussi.
Voilà, mais la cavalière, effectivement, ne monte pas à califourchon, mais monte assise comme un évêque ou comme...
Un ecclésiastique. Parce que c'était les jupes qui les empêchaient de monter comme ça, les grandes robes. Les curés, autrefois, et les évêques ou les papes avaient des grandes robes, donc ils pouvaient pas mettre... Elle ne pouvait pas monter à califourchon, c'était pas possible.
Alors on considère que la femme est tellement naze que son cheval est conduit en main par un valet, ou encore en dextre, alors peut-être que c'est plus sympathique, par un cavalier à cheval. Bon, mais elle se contente de s'asseoir sur le cheval et d'attendre que ça se passe. Et alors ce qui est quand même pas mal, Karine, cette selle permettait quand même la monte à deux, mais évidemment l'homme devant à califourchon et sa compagne derrière lui, assise de côté, se tenant à la taille de celui-ci. Ce qu'on voit toujours par exemple en Camargue ou en Espagne, hein, c'est une façon de faire où la dame s'assoit ou la demoiselle s'assoit
derrière, sur la croupe.
Alors évidemment, les chevaux généralement à l'époque étaient dressés pour aller à l'amble, évidemment, qui sont des allures lentes et rasantes, et surtout qui sont très confortables. Donc ça secoue très très peu. Et donc ça permettait, et on l'a vu jusqu'au début du XXe siècle dans certaines provinces françaises, où cette façon de monter, donc la dame derrière le cavalier assise de côté, continuait donc des chevaux à l'amble. Donc c'était tellement confortable que cette dame, cette demoiselle continuait à poursuivre ses travaux de couture, continuer à coudre, de broder, ou même de filer la laine. Et alors...
Ah ben ça, je savais pas.
Voilà. Et alors, même les bourreliers avaient trouvé une astuce, donc ils faisaient une encoche sur la selle pour maintenir la quenouille en place.
Ah oui.
Donc c'était vraiment...
Il fallait bien qu'elle bosse quand même, non?
Ça, je te laisse responsable de tes appréciations.
Non, mais c'est, ça prouve c'est, seulement c'est... que la femme peut faire deux choses en même temps, à la différence d'un homme. Voilà.
Et paf.
Donc, je suis supérieur partout, alors quoi.
Partout?
Ouais, ouais, allez, absolument. Là, allez, ça t'a cloué le bec. Ça allez, t'a cloué le bec.
Balle au centre.
Balle au centre, voilà. Alors, cette façon de monter, on appelait ça la monte à la fermière, et qui sera donc utilisée, jusqu'au, un petit peu, quand la voiture remplacera les chevaux. Malheureusement, Jean-Yves, n'est-ce pas?
Mais c'est encore pratiqué, hein. Il y a encore une association qui monte en Amazon. Et qui se recommande d'équitation en Amazon. Elles sautent les obstacles. Elles ont fait la route du sel en Amazon. Elles ont fait plein de choses et qu'elles continuent à faire en Amazon.
Elle a un très très joli travail à cheval d'ailleurs.
Hein. Oui.
Ah oui, c'est magnifique.
Sophie Bien-Aimé a un cheval mis au changement de pied-autant, puis a fait passage pirouette et qu'elle présente en Amazon. Avec une jambe en moins, puisque la gaule remplace la jambe.
La gaule remplace la jambe droite, voilà, qui est manquante forcément, voilà, puisque voilà. Alors on va peut-être s'accorder une pause musicale avec Alain Bachung, Bijou, Bijou.
Bijou, Bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh. Bijou, bijou, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujoux. Oh, oh, oh. Bijou, bijou, y'a des feux rouges partout. Et au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Oh, oh, oh. Pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Oh, oh. Bijoux.
Alors, dans un traité fameux de 1739, qui s'appelle Le Nouveau Parfait Maréchal, François de Garceau énonce les différentes caractéristiques que doit posséder une selle de dame. Alors, il écrit notamment, et je le cite, « Je n'ai dessiné une femme à cheval sur une selle de femme que pour faire voir qu'une femme bien à cheval doit être en face des deux oreilles de son cheval, comme un homme, et non de côté comme les peintres les mettent ordinairement. » C'est-à-dire que François de Garceau dit effectivement, bon, elle est toujours assise un peu en travers, donc pas à califourchon, mais elle doit quand même regarder les oreilles de son cheval, c'est-à-dire infléchir son torse pour pouvoir regarder les oreilles du cheval.
Donc, c'est important, déjà, c'est le centre de gravité qui voilà, doit être... Hein.
Elle est quand même assise de travers, hein. Elle n'est pas à califourchon.
Elle est sur un côté.
Voilà. Alors donc le but, c'est effectivement que la dame soit assise quand même bien d'aplomb sur son cheval. Et alors la selle est équipée sur le côté gauche de deux ou trois fourches incurvées. Donc on sait ce que c'est qu'une selle d'Amazon. Donc deux ou trois fourches. Hein. Il y a des selles Amazon à deux fourches et des selles Amazon à trois fourches. et ce qui lui permet effectivement de coincer ses cuisses et d'assurer son assiette. En fait, elle se cramponne avec les jambes. Voilà. Et son pied gauche est engagé dans un étrier pantoufle qui n'est pas l'étrier classique que l'on connaît maintenant, mais qui est une espèce de qui ressemble un peu à l'étrier camargué, quoi, ou les étriers des Mexicains, quoi, dans lequel vraiment on enfonce bien le pied, et qui ensuite devient un simple étrier, ce qu'on retrouve maintenant, un étrier commun, ce qu'on retrouve maintenant sur les actuelles selles d'Amazon. Et donc la jambe droite, elle, de la dame, prend appui sur le garrot jusqu'en haut de l'épaule gauche de sa monture. Voilà donc la position de la dame qui monte en Amazon. Alors, comme tu viens de le dire, Jean-Yves, pour avoir une action sur le flanc droit du cheval, la cavalière est munie d'une longue gaule qui fait office de jambe droite. Voilà, c'est ça.
Donc, absolument.
L'impulsion, elle le donne avec la jambe côté gauche, donc sa jambe gauche, et la jambe droite, évidemment, qui est du côté gauche, est remplacée par cette gaule.
Par des attouchements.
Voilà. Alors, c'est quand même un vrai tour de force pour arriver à coordonner tout ça. Hein. Et on cite à ce propos un professeur d'équitation de la fin du XVIIIe siècle qui s'y essaye. Alors, ce mec, il se dit, tiens, je vais quand même voir les nanas, c'est pas terrible, donc je devrais bien y arriver. Et puis bon, bah, il écrit, alors je le cite, « Il y aurait une grande témérité à faire entrer dans les leçons des dames les sauts de barrière. » Bah oui, on comprend. « Ayant fait des essais sur une selle de femme, je ne pouvais me tenir qu'en faisant entrer mon éperon droit dans le quartier de la selle. » C'est-à-dire, pour pas se casser la gueule, carrément, il plantait son étrier dans le quartier de la selle. Bah oui. Non, mais c'était quand même un grand écuyer.
Ouais.
Et par ce moyen, je rétablissais mon équilibre en franchissant l'obstacle. Parce que quand même, il sautait en Amazon. Bon, mais enfin, vraiment, il était pas très bien. Et alors, ce qui est vraiment encore plus marrant, il avoue, mais si le cheval voulait sauter plus fort par gaieté, hein, le cheval était content, je passais bien vite ma jambe droite par-dessus le garrot pour me remettre à califourchon et ne pas tomber. Bon, donc courageux, téméraire, mais pas fou non plus. Bon, donc il n'avait pas envie de se gameler, donc quand il sentait que ça marquait mal, hop, il se remettait en califourchon. Ce que les dames ne faisaient pas forcément. Alors, malgré tout, la montée en Amazon n'empêche pas les femmes de faire tout ce que font les hommes, haute école, parcours de chasse, cours d'obstacles. Et l'équitation est aussi pour les femmes un des moyens de s'émanciper. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les femmes aussi se sont émancipées grâce à l'équitation. Et un exemple, au XVIIIe siècle, la duchesse de Brionne reprenait à la mort de son mari la charge de grand écuyer de France que celui-ci détenait. C'était une femme. Mais pourtant, elle a repris la place, le roi lui a permis. Et outre l'instruction des pages, elle dirigeait les haras et les écuries de France. Donc, grosse responsabilité. On pourrait dire le ministre de l'équitation royale, quelque chose comme ça. Et elle montait à califourchon, pas folle la guêpe, comme on peut le voir du reste sur un tableau conservé au musée de Versailles, où effectivement on voit cette dame qui montait à califourchon. Et puis évidemment, Catherine II, l'impératrice de Russie, mais celle-là avait un fort caractère, était également une redoutable cavalière qui montait à califourchon et dont on disait qu'elle usait plus vite ses amants que ses chevaux. Donc ça ne devrait que nous plaire. Après tout, les amants, c'est pas bien grave, les chevaux, c'est quand même pas bien du tout. Bon, donc les usons moins.
Et Jeanne d'Arc montait aussi à califourchon, elle ne montait pas à l'Amazon, Jeanne d'Arc, parce qu'elle avait la tenue...
Avec l'armure, là,
l'armure et tout.
Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, jusqu'à la Révolution française, les manèges d'équitation étaient réservés aux classes supérieures de la société, évidemment. Les manants n'y avaient pas trop droit. Et à la fin du XVIIIe siècle, un républicain convaincu, Charles Thiroux, fonde à Paris un manège qu'il appelle un manège bourgeois, ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes, ce qui était une petite révolution.
Ah oui, c'était quand même une grande première.
Ah oui, et ça n'a pas plu à tout le monde. Il s'intéresse particulièrement à l'équitation des femmes, ça vraiment, et il considère que les longues robes dans lesquelles les cavalières se sanglent au moyen de ceintures et autres courroies sont dangereuses quand on monte à cheval. Il conseille formellement à ses élèves femmes de choisir un costume à leur goût, dit-il, mais commode. Bon, et surtout, il les dispense d'avoir recours à ces ligatures que la décence exige en pareille circonstance, quoiqu'au détriment de la sécurité. En disant, vous vous mettez comme vous voulez, mais attention, sécurité, là vous faites gaffe, vous faites pas n'importe quoi. Et il conclut, alors ça c'est joli, qui peut s'en frissonner, songer à quoi l'on expose une femme imprudemment garrottée sur un cheval. C'est quand même une bonne attention, hein, qu'est-ce que tu en penses, Karine ?
Ouais. Oui, il faut bien qu'il y en ait un quand même qui...
Sur le tas, voilà, donc qui à la fois est debout, pas dans le canapé, et
voilà,
et ben c'est formidable.
Il faut parler peut-être
aussi
du panty à cette époque, dans une certaine époque, hein, Michel ?
Voilà, alors effectivement, il semblerait que ce soit Catherine de Médicis qui ait inventé le panty, la culotte.
Demandez à son ministre de trouver quelque chose pour empêcher... aux spectateurs de voir les fesses de ces cavalières qui
voilà,
tombaient.
Voilà. Et qui, voilà, donc elle avait fait lancer la mode et fait faire pour elle une culotte, en fait, en potagno pour, disons, monter un petit peu moins inconfortablement à cheval puisqu'elle montait, elle, à califourchon. Alors, en Angleterre, dès la fin du 19e siècle, la monte à califourchon s'impose aux femmes, une monte rapidement adoptée par les cavalières françaises. Les cavalières françaises, c'est l'anglomanie, donc les cavalières françaises adhèrent immédiatement et quelques résistances masculines apparaissent ici et là pour fustiger cette mode. Et à ce propos, un journaliste français qui, à mon avis, aurait mieux fait de se taire, écrit dans son journal, alors il dit « De nos jours, quelques excentriques, féminines évidemment, ont essayé de mettre à la mode pour les dames cette façon de monter à califourchon. » Le mieux est de renoncer à cette vilaine pratique, et c'est heureux, car la chose est bien disgracieuse pour le beau sexe. Disgracieuse, beau sexe, le mec, on sait pas trop comment il pense. Et on fera bien de conserver la tenue assise en Amazon des dames à cheval. Elle est en usage depuis des siècles, et l'on n'a pas encore trouvé mieux.
Celui-là,
voilà.
Il était pas dans le coup. Hein.
Alors, comme quoi, travailler sur l'actualité ne rend pas forcément visionnaire.
Ça, c'est sûr.
Alors maintenant, on va quand même redonner les coordonnées de la route du sel, donc qui s'élance de Sainte-Eulalie-de-Cernon quel jour?
Le 28 juillet.
Le 28 juillet.
La grande fête pour tous. Gérard Klein était là, il sera peut-être présent aussi.
Voilà. Alors donc, vous pouvez joindre Vanessa, qui est la grande organisatrice de la route du sel, avec d'autres, au 06 30 92 26 94, donc 06 30 92 26 94, et trouvez les renseignements aussi donc sur le site, sur votre moteur de recherche. Vous tapez tout simplement la route du sel et vous y arriverez. Alors, le dicton de la semaine, alors il nous vient de Mazurie, cette région de lacs et de forêts située au nord-est de la Pologne et réputée pour ses élevages de chevaux. Effectivement, il y a beaucoup d'élevages de chevaux en Mazurie. Alors, le dicton dit: voici les trois choses les plus belles au monde. Alors, je pense que Jean-Yves va être tout à fait ravi. 1. Une femme qui danse. 2. Un bateau toute voile dehors. Et 3. Un cheval qui galope.
Oui, mais moi je dirais que les trois plus belles choses au monde, c'est la plus belle des occupations, c'est d'élever des chevaux. La meilleure action domestique, c'est de les soigner. Et le plus bel amusement, c'est de les monter.
Les chevaux, bien sûr.
Nous
arrivons à la fin de cette émission. À toi, Karine.
C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez, 107.9, et de CFM Villefranche-de-Rouergue, 90.2. Un cheval qui nous attend...
Non pour nous en servir, mais pour le servir.
Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Radio, à la rubrique « Le messager du cheval ». Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey, hey, partis les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. C'est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey, non, 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 toi et souris, ton cheval est un ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non, 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 non. Sur la route du sel, d'aigle morte à Rodez.
passant par sa nièvre du Languedoc au Rouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertera de Millau, les Vézoux, sa vieille du milieu du sel. Patrie de Béranger de l'Andorre, capitale du Rouergue de Rodez, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la